Ibrahima, qu'en est-il du projet de taxe sur les produits importés sur le continent pour financer l'UA?
Oui, c'est cette taxe-là qui va être mise en œuvre à partir de 2018. Le budget de 2018 a été adopté, c'est de l'ordre de 780 millions de dollars, mais c'est encore un budget qui est en grande partie financé par les donneurs. Mais à partir du budget de 2019, la taxe de 0,2% pourra être vraiment mise en œuvre par l'Union africaine, la Commission de l'Union africaine. Donc on est vraiment dans le vif du sujet maintenant.
Et en fait, pour la plupart des États, cette taxe va encore réduire le niveau de vie des Africains parce que, vous savez, vous avez des pays comme l'Afrique du Sud, le Nigeria, pourtant poids lourd de l'économie africaine, ils sont hostiles. Alors, est-il regrettable que le sommet n'ait pas permis de trancher le différend, Ibrahima, au sujet de cette taxe ?
En fait, cette taxe normale.
Oui, allez-y.
La taxe qui est proposée a déjà fait ses preuves, par exemple, en Afrique de l'Ouest. La CEDEAO l'a pris depuis une décennie. Et ça n'a pas entamé, comment dirais-je encore, la volonté des États. Les États qui refusent, comme la France du Sud en particulier, ils le font, elles sont différentes parce que l'Afrique du Sud ne veut pas perdre le poids qu'il a au niveau de l'Union africaine en ce moment. Parce que l'Afrique du Sud est parmi les 5 plus grands contributeurs de l'Union africaine. Et donc, si cette taxe est mise en œuvre, c'est l'Afrique du Sud qui va perdre son poids politique. Et c'est ça la grosse difficulté. Sinon, la mise en œuvre de cette taxe ne va pas appauvrir les États et encore moins en Chine.
Ouais, je vais m'adresser maintenant à Manoj Mounouba, et à vous qui étiez à la MONUSCO. Vous n'êtes pas sans savoir que cette dépendance est encore plus forte pour les opérations de maintien de la paix. Pourquoi ce manque d'action concrète pour parvenir à l'indépendance financière de l'UA, d'après vous, malgré tous les grands discours qu'on entend chaque année?
Je pense que la réponse la plus simple, c'est de dire qu'il n'y a pas une volonté politique de la part des États africains. Parce que lorsqu'on parle de maintien de la paix dans beaucoup de pays en Afrique et que ces forces qui viennent d'abord, la plupart, sinon pas l'essentiel des forces, sont d'abord des forces extra-africaines, que le budget qui finance ces forces est en majorité extra-africaine, c'est tout un problème aussi au niveau, je dirais même, de la souveraineté. De l'Afrique qui se pose. Aujourd'hui, les États-Unis ont décidé de réduire leur participation dans le budget de maintien de la paix. Vous savez que les États-Unis, c'est à peu près 25% du budget de maintien de la paix. Automatiquement, cela se répercute sur des missions comme la République démocratique du Congo, la plus grande mission des Nations Unies en Afrique, mais aussi le plus grand problème de paix, de sécurité qui se pose en Afrique.
Oui. Donc, nous sommes également rejoints par Moustapha Tossa. Restez avec nous. Alors, Moustapha Tossa, qui est analyste politique, il nous rejoint de Paris. Moustapha, on parle de l'autofinancement de l'UA. Alors, il y a cette grosse dépendance financière de l'UA sur les institutions autres internationales. Alors, cette dépendance financière ébranle-t-elle la crédibilité et l'autorité de l'UA, d'après vous ?
Oui, on peut dire que c'est un coup dur pour la crédibilité d'une organisation qui se veut l'incarnation des espoirs de tout un continent. Jusqu'à présent, elle est dans l'incapacité de se trouver des financements et elle dépend des financements de l'Union européenne, de la Turquie, de la Chine et des États-Unis. Donc c'est un dossier assez emblématique. Et si les Africains sont incapables de parvenir à une solution pour s'autofinancer, ça ne peut que constituer un grave danger pour leur crédibilité et pour tous les discours et tous les projets qu'ils peuvent mettre en œuvre. Ça, c'est vraiment une urgence. Et c'est une urgence depuis des années, mais ça devient de plus en plus une urgence, d'autant plus qu'on est en train de vivre dans une séquence internationale où des pays comme les États-Unis, et d'ailleurs le président Donald Trump l'avait dit à un moment donné pendant sa campagne électorale et une fois qu'il a été élu, il va falloir revoir toute l'aide économique et financière à certains pays et à certaines organisations parce qu'il ne veut pas payer gratuitement un travail qui ne lui est pas directement profitable. Donc là, on est en face d'un défi immense pour les Africains. Il faut trouver un autofinancement comme la plupart des organisations régionales, que ce soit en Europe ou en Asie.
Oui. Alors, je vous le disais, hein, ce sommet a été consacré à la jeunesse africaine. Quelques repères rapides sur les 1,2 milliard d'habitants en Afrique. 420 millions sont des jeunes. Chaque année, jusqu'à 12 millions d'entre eux font leur entrée sur le marché du travail, alors que seuls 3 millions d'emplois sont créés. Ibrahima Kane, brièvement, encore une fois, qu'ont réellement proposé les dirigeants africains à ces nombreux jeunes désemparés?
Bon, vous savez, ce genre de décision au niveau de l'Union africaine de consacrer pendant une année un thème à un sujet d'actualité depuis la création de l'Union en 2002. Et c'est pendant cette année, l'idée c'est de tout mettre en œuvre pour que un ensemble de questions importantes soient examinées. Et dans ce cadre-ci, par exemple, au niveau de ce sommet, trois décisions importantes ont été prises concernant la jeunesse. Un, on a décidé de consacrer la décennie 2017-2026 à la jeunesse africaine pour essayer d'examiner tous les problèmes auxquels la jeunesse est confrontée et voir dans quelle mesure l'Union peut, avec les communautés économiques régionales, trouver des solutions. Il y a un fonds de la jeunesse qui a été créé. Et en dernier lieu, on a décidé, et cela me paraît d'une grande importance, un forum de la jeunesse africaine. Parce que cette union est conçue comme étant une union dirigée par les populations, mais les populations arrivent difficilement à parler à l'Union africaine. Et donc ce forum sera un cadre idéal de conversation, de discussion, d'échange sur les problèmes de la jeunesse.
Voilà. Bon, des jeunes en quête de lendemain meilleur, n'est-ce pas, en dehors du continent et qui trop souvent s'embarquent dans des aventures tragiques à travers le Sahara et les eaux de la Méditerranée. Moustapha Tossa, brièvement, hein, parce que ça passe très vite. Que doit faire l'Afrique pour améliorer les conditions de vie de ces jeunes?
Elle doit, l'Afrique et les pays africains doivent investir énormément dans leur jeunesse parce que c'est leur capital humain qui est en pleine déperdition à cause du manque du travail. Vous l'avez dit avec des chiffres, l'entrée dans le marché du travail de 11 millions de jeunes africains alors que seuls 3 millions d'emplois sont créés. Donc il y a là un potentiel extrêmement important. Si l'Afrique veut investir et veut compter sur ses forces, il va falloir investir sur sa jeunesse. D'autant plus que ça coïncide et ça correspond aussi à une inquiétude internationale. L'Union européenne et les pays dits riches du Nord, ils voient avec beaucoup d'angoisse et d'inquiétude ces jeunes Africains qui n'arrivent pas à trouver des raisons de vivre sur leur territoire et qui tentent l'aventure suicidaire de l'immigration. Beaucoup de centaines meurent en Méditerranée après avoir traversé tout le continent africain. Ça, c'est un drame quotidien qui est en train de porter atteinte à la crédibilité, à la réputation et au devenir de l'homme africain. Donc, la jeunesse est un secteur où il faut investir beaucoup, beaucoup d'efforts et beaucoup d'intelligence pour trouver les solutions et convaincre les jeunes Africains de rester vivre sur leur terre et participer à son développement.
Et voilà un autre chiffre choquant pour vous, Moustapha. Plus de 70% de ces jeunes Africains vivent avec moins de 2 dollars par jour. Vous imaginez 70% de 2 dollars par jour. Alors, des jeunes qui sont aussi tentés de rejoindre des groupes armés. Manoj Mounoubaï, vous avez peut-être vu ça en RD Congo. Y a-t-il donc urgence de faire de cette jeunesse africaine un atout pour le continent?
Tout le monde le dit, tout le monde le comprend. La jeunesse, c'est le futur du pays. seulement, il ne faut pas seulement le dire, il faut agir, il faut prendre des mesures qui puissent ouvrir l'avenir à ces jeunes gens, leur donner de l'espoir afin qu'ils puissent devenir productifs pour leur pays. C'est ce qui manque. Les jeunes en Afrique n'ont pas cette opportunité, n'ont pas cette liberté de pensée et d'action, n'ont pas une bonne lisibilité de leur futur. C'est pour ça que aujourd'hui, les jeunes préfèrent aller prendre les armes parce que ça paye immédiatement. Ils voient leurs grands frères qui vont à l'école, qui font des études, qui reviennent, qui n'ont pas de boulot et qui ne sont pas mieux que eux qui n'ont jamais été à l'école. Et ils pensent qu'avec les métiers des armes, ils peuvent faire quelque chose. Donc, c'est un problème sérieux. Les jeunes qui s'engagent, en fait, dans les groupes armés, c'est parce qu'ils pensent que c'est le seul moyen qu'ils ont pour avoir un avenir. Et c'est ce que nous voyons au Congo et dans beaucoup d'autres pays africains.
Je vous propose maintenant deux commentaires à Facebook. Tabitha Nzolo, Kinshasa, RD Congo. La nouvelle génération doit se battre pour le changement et rendre effective l'indépendance de l'Afrique et de ses institutions. Et Roland Kepelomé, Abome Kalavi, Bénin. L'autofinancement de l'UA, c'est vraiment possible. Mais ma chère et belle Afrique, un véritable problème, le manque de volonté de nos dirigeants. Voilà, pas plus clair que ça. On peut pas avoir. N'allez nulle part ailleurs, Washington Forum revient après cette pause.
Vous et nous, c'est votre émission.
Une émission qui parle de vous, mais aussi de nous.
Un nouveau regard sur l'Afrique et les États-Unis.
Tout ce qui nous passionne et dont nous rapproche.
Racontez-nous vos histoires.
Et nous vous raconterons les vôtres.
Vie africaine,
vie américaine.
Vous et nous, c'est ce que nous avons en commun.
Et aussi ce que nous apprenons les uns des autres. La vie,
vous
et nous, ensemble.
This one? Ok. Jacques Aristide de retour avec vous. Gros plan sur les retombées du récent sommet de l'Union africaine. Nous allons parler de sécurité et du Maroc avec nos invités dans cette seconde partie. Nous les retrouvons sans plus tarder de Dakar, Ibrahima Khan, directeur du bureau de plaidoyer de l'ONG Open Society Foundations auprès de l'Union africaine. Du studio de la VOA à Washington, Manoj Mounoubaï, ancien porte-parole de la MONUSCO, membre du comité international pour le mémorial, Thomas Sankara, et de Paris, le journaliste et politologue Mustapha Tossa. Alors, la lutte contre le terrorisme, le sujet qui revient à chaque sommet de l'UA, mais cette fois-ci, il a beaucoup été question de cette force conjointe du G5 Sahel. Il y a cependant toujours ce manque de moyens. Ibrahima Khan, l'UA a-t-elle pris des engagements pour s'impliquer pleinement dans ce combat ?
Oui, chaque fois qu'il s'agit de paix et de sécurité en Afrique, l'UA n'a pas d'autre choix que de s'engager. Vous savez que depuis sa prise de fonction, le président de la Commission a fait un voyage dans les pays du Sahel pour discuter avec les différents États. L'UA est partie prenante dans le combat contre les crimes qui sont commis sur le continent. Bon, malgré les difficultés dont vous avez fait mention, l'UA s'implique et je suis persuadé que lors de ce sommet, un certain nombre d'engagements ont été pris. Bon, pas pour beaucoup parce que les montants qui ont été mentionnés dans les décisions, c'est de l'ordre de 60 millions, ce qui fait même pas le cinquième du budget de cette nouvelle unité à mettre en place. Mais cela démontre quand même une volonté réelle. Et quand les ressources seront disponibles, je pense que l'engagement serait plus conséquent. N'oubliez pas que dans le financement, on a dit que 25% du budget de l'UA sera consacré à la paix et la sécurité. Donc c'est quand même un début.
Ouais, un début. Alors, mais justement, Mustapha Tossa, qu'on peut maintenant voir de notre beau studio de Paris. Alors, concernant le G5 Sahel, c'est la France qui a donné l'impulsion. N'était-ce pas plutôt le rôle de l'Union africaine, d'après vous?
Oui, c'est vrai. On assiste dans ce cas-là particulier de lutte contre les groupes terroristes à une déperdition, entre guillemets, du rôle que pourraient jouer les pays africains, alors que, normalement l'Union africaine, les pays africains doivent être à la manœuvre pour lutter contre ces groupes terroristes. C'est la France qui donne l'impulsion, qui crée cette force multilatérale, cette force, et qui lui trouve même le budget, le financement, 50 millions d'euros donnés par l'Union européenne, et qui donne l'impression à tous les Africains que c'est elle qui est à la manœuvre. Et donc ça, c'est pas forcément une bonne chose. Alors nous espérons tous que cette démarche d'Emmanuel Macron soit suivie d'efficacité sur le terrain, mais à long terme, il faut que les Africains reprennent les choses en main et soient maîtres de leur destin et luttent eux-mêmes contre ces organisations terroristes. Lors de son dernier discours à Gao, Emmanuel Macron avait dit une phrase, j'espère que les Africains l'ont bien entendu, bien déchiffré. Il avait dit qu'il ne faut pas, il ne va pas, je traduis, hein, il ne va pas laisser les Français, les jeunes soldats français mourir comme ça, sans but, de manière gratuite. Il faut que les Africains soient impliqués dans la lutte contre la terreur et les organisations terroristes. Et ça, c'est l'enjeu qui attend non seulement les pays du Sahel, mais l'Union africaine. Alors, quand on sait que cette Union africaine est incapable de trouver les mécanismes de son financement, on a des doutes à trouver, à imaginer qu'elle puisse trouver les mécanismes de lutte contre les menaces terroristes qui pèsent sur ces pays et sur ces régions.
Voilà. Manoj Mounoubaï, au sujet des opérations de maintien de la paix sur le continent, l'ONU voudrait bien passer le témoin à l'UA à un certain moment. Hein. L'institution panafricaine pourra-t-elle relever le défi ?
Mais encore une fois, je dis, c'est une question de volonté politique. Le rôle des Nations Unies, en fait, c'est la sécurité dans le monde. Mais quand il s'agit des questions de sécurité, de paix en Afrique, je pense que les pays africains devraient être en première ligne. Malheureusement, les pays africains jusque-là se sont montrés incapables d'être en première ligne quand il s'agit de ces questions de maintien de la paix dans un des pays qui sur le continent. Que donc, les Nations Unies passent la main à l'Union africaine, je pense que c'est normal. L'Union africaine devrait être en première ligne. Mais à ce niveau des choses, je pense qu'il y a encore des doutes, parce que comme je le dis, il y a beaucoup de mots, mais on ne sent pas encore une véritable volonté politique de la part des États, non seulement de s'ingérer financièrement, mais aussi de donner leurs hommes pour faire partie d'une force pour défendre l'Afrique.
Oui, alors parlons maintenant de ce grand retour du Maroc dans la grande famille africaine. 33 ans après avoir claqué la porte, le Maroc qui a pu amender une résolution, du moins qui a pu faire amender une résolution parlant du Sahara occidental comme d'un territoire occupé. Une victoire pour Rabat, Mustapha Tossa.
Oui, c'est vrai, c'est un retour gagnant et une victoire claire, éclatante. C'est vrai que le discours du Maroc n'a pas été lu par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, il a été lu par son frère, mais il n'en perd pas moins de son importance. Alors ce retour, c'est un retour qui a participé à changer le discours, à changer les termes, la terminologie, à changer la manière de concevoir cette affaire du Sahara. On commence, grâce à un activisme de la diplomatie marocaine, à l'intérieur même des structures de l'Union africaine, on commence à changer de perception et à parler comme les Nations Unies, et non pas comme l'ancienne Union africaine où les forces hostiles au royaume étaient tout seuls sur le terrain en train de gérer, de créer de la marginalisation pour le Maroc. Le Maroc est de retour et il est en train d'influencer la manière de percevoir ce conflit, et je crois qu'à force de travail et à force de lobbying et à force de conviction et de persuasion pour les membres de l'Union africaine, cette affaire-là va être traitée au bénéfice du Maroc qui va retrouver sa totale souveraineté et qui va éloigner le spectre du séparatisme que des forces hostiles comme l'Algérie sont en train de nourrir au sein de l'Union africaine. Ça, pour moi, c'est un retour gagnant du Maroc et les faits le démontrent tous les jours.
Retour gagnant du Maroc. Ibrahima Kan, que signifie cet amendement pour la République arabe sahraoui démocratique, pour le Front Polisario? Est-ce que le Maroc veut les faire expulser de l'UA?
Non, je nuancerai un peu le propos de mon prédécesseur. Je pense qu'il faut avoir une attitude nuancée quand il s'agit du retour du Maroc. On attend de voir le texte de la décision. Moi, le document, la synthèse que j'ai de la décision, c'est que les États africains veulent qu'il y ait un consensus autour des Nations Unies pour régler la question du Sahara. Et le document parle même de l'exercice du droit à l'autodétermination, question que refuse totalement le Maroc. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qu'il faut souligner, c'est que le Maroc, en réintégrant l'UA, a accepté l'existence d'un État de la République, qui est la République arabe sahraoui et démocratique. Et donc, il n'y a rien de gagnant sur cette question. Le troisième point que j'aimerais souligner encore à ce niveau, c'est que le Maroc a récemment fait une demande au niveau de la CEDEAO pour pouvoir intégrer cette communauté économique régionale. Cela est lié aux difficultés que le Maroc rencontre actuellement, notamment au niveau d'Addis, parce que pour vos auditeurs, il faut savoir que le groupe de l'Afrique du Nord est géré par la République arabe sahraoui démocratique que le Maroc ne reconnaît pas. Et donc le Maroc arrive difficilement à participer aux activités de l'Union africaine à ce niveau-là. Et le fait de vouloir quitter la zone
on l'a compris, je vous propose.
Ça veut dire que
le Maroc de vous interrompre.
Est confronté à beaucoup de problèmes. Ouais.
Beaucoup de problèmes. Alors, je vous propose maintenant deux autres réactions sur la page Facebook de VOA Afrique. El Hadj Ousmane Mahamad Ali, Baga Sola Tchad. Au fait, UA, ONU, tous pareils, ils ne font que se retrouver, parler. Mais pas de changement pour les peuples africains. Les rebelles, les terroristes continuent à tuer. Et Yao Marcelin Kofi, Abidjan, Côte d'Ivoire, l'UA a le mérite de plancher sur ces thèmes qui constituent une propre préoccupation pour tout Africain, épris de paix et surtout à la recherche d'un emploi digne de son rang. Un mot sur le président de la commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, qui remplace depuis janvier la sud-africaine Kosazana Dlamini Zuma. Cet ancien chef de la diplomatie tchadienne n'hésite pas à prendre position. Par exemple, il s'est dit frustré par l'inaction des Africains devant la famine. Cet homme, Ibrahima Kan, pourra-t-il faire changer les choses à l'UA très rapidement?
Oui, je pense que on attend beaucoup d'un président de la Commission de l'Union africaine qui n'a pas beaucoup de pouvoir. Ouais. Vous savez, et en plus, le président actuel de la Commission africaine est un ancien ministre des Affaires étrangères. La seule fois que le président de la Commission de l'Union a pesé d'un poids au niveau de l'Union africaine, c'est quand ce poste a été occupé par un ancien président. Ça, je pense que les gens doivent le garder à l'esprit. La deuxième chose que je dirais, c'est que on est dans un processus de réforme qui, au bout du compte, donnera un peu plus de force, de pouvoir à la Commission africaine. Attendons que tout ce processus aille à son terme pour faire une évaluation du travail du président de la Commission. Mais je sais que, contrairement à la personne qui l'a précédé, ces premiers mois sont des mois vraiment d'activisme et cela donne des raisons d'espérer.
Oui, Manoj, un mot rapide sur le président de la Commission de l'UA.
Oui, je pense que Moussa Faki, je me rappelle encore quand il était en campagne, il disait le Tchad c'est mon pays, c'est mon village, l'Afrique c'est mon pays, donc il est fondamentalement panafricaniste et je pense qu'il voudrait faire quelque chose pour l'Union africaine. Mais n'oublions pas, à moins que les chefs d'État en Afrique changent leur culture politique, ça va lui être très difficile de faire beaucoup de choses parce que je ne pense pas que les chefs d'État africains voudraient voir un 56e chef d'État en Afrique. Parce que je crois que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Il y a 55 États, toutes les décisions doivent toujours remonter au niveau des chefs d'État. Donc ça vide même de la substance, de l'autorité du président de la Commission.
Ouais. Ben, très bien. Oui, voilà, c'est tout ce qu'on va pouvoir dire. Point final à ce Washington Forum. Merci à nos invités et à mes collègues de Washington et New York. Petit clin d'œil à nos amis d'Ariane TV, notre télépartenaire à Yaoundé. Et merci à vous, chers amis de la VOA. Merci de nous avoir accueillis chez vous. C'était Jacques Aristide avec vous. Je vous dis à très bientôt. Take care.